Bonsoir à tous et à toutes. Et donc, merci à la communauté de cette invitation, en particulier donc à Laurence Freeman et à Marie, qui a été mon interlocutrice, qui m'a conduit à vous rejoindre ce soir. À vrai dire, je n'ai pas hésité trop longtemps avant de répondre favorablement à cette invitation, exactement pour la raison que disait Marie à l'instant, la dimension à la fois missionnaire et méditation qui semblait être le thème de de cette recollection de ce week-end. Il y aura en tout cas de ma part deux interventions, l'une ce soir, donc l'autre demain. Je vous rassure, il n'y en aura pas deux ce soir, je vous rassure. Celle de ce soir, peut-être pour entrer directement sur, effectivement, à partir de cette question, à quoi sert un chrétien ? À quoi ça sert d'être chrétien ? Est-ce que le christianisme a encore la moindre utilité, pertinence, quelque chose à apporter à la société aujourd'hui ? Bien sûr, question qui, se pose. Depuis que finalement le christianisme existe, mais avec une actualité évidemment très particulière aujourd'hui. Alors, peut-être un préambule et trois éléments de réponse sur à quoi sert un chrétien, et de façon à... D'abord le préambule. Voilà. Le préambule, c'est peut-être... De partager un petit peu un constat, ça sera, je crois, assez consensuel, mais peut-être d'essayer de mettre des mots sur ce que nous sommes en train de vivre. Quand je dis nous, c'est notre génération. Hein, notre génération. Et qu'est-ce qu'on est en train de vivre concernant le christianisme ? Le constat, je vais passer assez rapidement. On vit, en tout cas, un temps, une époque, une séquence où notre société s'affranchit du christianisme. Elle s'affranchit du christianisme. La culture globale se dissocie de plus en plus et parfois frontalement avec, on va dire, le contenu de l'enseignement de l'Église, que ce soit des lois sur la contraception, sur l'avortement, sur le mariage entre personnes de même sexe, mais aussi le choix des prénoms. Il y a une étude là qui est sortie il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous voulez, sur l'évolution des prénoms. C'est assez stupéfiant dans ce que ça dit justement de la façon dont la culture globale recourt de moins en moins, au patrimoine chrétien. Donc on peut dire que la culture dominante n'est plus à même de promouvoir la vision chrétienne de l'homme. L'ignorance, donc dissociation entre la culture globale et, on va dire, l'enseignement et la culture que porte l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église institution, je parle de l'Église en tant que patrimoine chrétien, depuis que l'Église existe, depuis 2000 ans. Deuxième élément, évidemment, c'est le niveau d'ignorance religieuse. Et quand je parle du niveau d'ignorance religieuse, je ne parle pas du niveau d'ignorance religieuse des non-chrétiens. Parce que je ne suis pas convaincu que les chrétiens, au sens ceux qui sont baptisés, aient un niveau de connaissance religieuse qui soit tellement supérieur à ceux des non-chrétiens. Donc je me mets totalement là-dedans, moi-même ayant de façon très évidente un niveau de connaissance religieuse très inférieur, par exemple, à ceux de mes grands-parents. En tout cas, pour moi, c'est évident. Donc ce niveau d'ignorance religieuse, quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour dénoncer quiconque, parce que c'est tout à fait global, et y compris dans l'Église. Voilà. Et quand on demande à quelqu'un de dire, y compris à des chrétiens, c'est quoi la différence, au sens des baptisés, c'est quoi la différence entre l'ascension et l'assomption, et la fête de l'assomption, on peut avoir des fois des réponses assez rigolotes, à condition qu'on ait un peu le sens de l'humour, qu'on soit un peu détendu sur ces questions. D'où la question, en tout cas moi qui me vient, c'est, beaucoup de catholiques sont-ils encore des chrétiens ? Au sens... C'est une formule un peu provocante, mais pour moi qui a du sens. Beaucoup de catholiques, au sens baptisés à l'Église catholique, etc., sont-ils encore des chrétiens ? C'est-à-dire compte tenu, effectivement, du niveau de connaissance que l'on peut avoir, encore une fois, collectivement. Un pape récent, Benoît XVI, mettait des mots là-dessus, il parlait d'apostasie silencieuse. C'est quand même des mots très forts. Apostasie silencieuse. C'est-à-dire tellement, effectivement, la méconnaissance du patrimoine chrétien progresse. Voilà. Il me semble qu'il y a un troisième élément, effectivement, qui montre combien, combien le christianisme, enfin, la société s'affranchit du christianisme. C'est la compréhension, finalement, que la société a du christianisme, à savoir que, finalement, voilà, grosso modo, les chrétiens, c'est bien pour s'occuper des pauvres et des migrants. Ça, il n'y a pas de souci. On a confiance, ils sont dévoués, ils ne piquent pas trop dans la caisse. Pas de souci là-dessus. En revanche, on voit bien qu'il y a une cristallisation sur, effectivement, un supposé retour de l'ordre moral religieux. C'est-à-dire une crispation sur les questions morales qui fait que, finalement, si on demande aux gens, et beaucoup d'études, hein, là, je la fais courte, mais beaucoup d'études, de sondages, etc., l'illustrent, si on demande, finalement, c'est quoi l'Église pour vous, ben, on dira, finalement, ben, c'est des gens qui sont contre la capote, qui sont contre la contraception, contre le divorce, etc. En fait, qui sont contre le mariage des prêtres. D'ailleurs, regardez à quoi ça nous mène. Bon, finalement, comme s'il y avait une cristallisation sur tout ce qui tournait autour du sexe, parce que le point commun de tout ça, voilà. Donc cette cristallisation, finalement, d'une bonne, une cristallisation de, ou une réduction, plus exactement, du message chrétien à une morale sexuelle. Et en l'occurrence, une morale sexuelle, évidemment, qui est voilà, castratrice d'un autre siècle, enfin, ainsi de suite. Voilà. C'est de mon point de vue tout à fait paradoxal, parce que probablement, dans l'histoire de 20 siècles de christianisme, en tout cas sous nos latitudes, jamais, mais probablement jamais pendant ces 20 siècles, l'Église aura eu aussi peu d'impact, d'influence et d'emprise sur la vie privée des gens. C'est ça qui est quand même assez paradoxal, quoi. Enfin, et on le voit bien. Voilà, sur les modes de vie. Et puis, me semble-t-il, dernier point, c'est la façon dont des valeurs qui étaient historiquement considérées comme chrétiennes s'affranchissent de leur origine chrétienne. On peut penser à la fraternité, on peut penser à la liberté, on peut penser à ce qu'il y a sur le fronton, voilà, de nos écoles, etc., qui pendant des siècles et des siècles, ces notions explicitement assumaient leur inspiration chrétienne, aujourd'hui, évidemment, il n'en est plus de même. Mais la valeur, j'allais dire, de notre République, qui me paraît la plus intéressante à cet égard, c'est la laïcité. La laïcité étant aujourd'hui présentée comme le summum, justement, de l'invention de l'époque des Lumières, des philosophes des Lumières, et justement un rempart contre, évidemment, le prosélytisme chrétien qui va mettre en danger toute la vie de la République. Je pense que c'est clair pour tout le monde, vu le rapport de force évident dans la société. Je dis ça de façon ironique, bien sûr, mais avec un oubli complet que la laïcité est une invention chrétienne. Et quand je dis ça, c'est pas un propos qui est là pour faire un propos confessionnel. C'est un propos simplement historique, que la notion même de laïcité est une notion, et tous les historiens de bonne foi, même non chrétiens, le reconnaîtront, est une notion chrétienne, qui a été fondée, c'est pas pour dire que la laïcité en tant que telle n'existe que dans des pays qui sont de culture chrétienne. Deux motifs à cela, que l'on trouve évidemment dans l'Évangile, cette phrase du Christ révolutionnaire à l'époque, « Rendez à César ce qui est à César », et la deuxième phrase qui a fondé la laïcité dans le christianisme, qui est « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et ce sont ces deux affirmations de Jésus telles que rapportées dans l'Évangile qui ont fondé la laïcité, et donc qui a été repris ensuite par des théologiens, en particulier Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, en particulier Guillaume d'Ockham au XIVe siècle, qui ont théorisé la laïcité et qui a été ensuite repris par les philosophes des Lumières. Mais bon, je m'arrête là-dessus parce que sinon... Voilà, mais juste pour dire, pointer là la façon dont notre société s'affranchit et s'approprie en fait des valeurs historiquement chrétiennes, mais voilà. Alors en fait, on peut se poser effectivement la question, est-ce qu'on n'est pas en train de fermer la parenthèse d'une civilisation qui a été effectivement pendant 20 siècles une civilisation chrétienne, et puis finalement, comme il y a la civilisation des Incas, la civilisation des Aztèques, la civilisation sumérienne, etc., des tas de civilisations extrêmement évoluées, et à un moment donné, en fait, elles ont disparu. Alors, la question, je pense qu'elle est vraiment sérieuse. Enfin, elle se pose. Hein. Je pense qu'il ne faut pas balayer ça d'un revers de la main. Je pense qu'on l'a trop longtemps balayé d'un revers de la main. Il me semble que, d'abord, je maintiens le suspense quant à ma réponse. Hein. Mais est-ce qu'on est en train de vivre la fin du christianisme ? Alors, d'abord, je pense que ce recul est à nuancer. À nuancer, ça ne veut pas dire à nier. Hein. Faut pas être dans le déni. Tout ce que je viens d'affirmer, évidemment, nécessiterait des développements, mais je crois que personne ne pourra le contester. D'abord, il me semble que l'annonce de la disparition du christianisme, franchement, ce n'est pas nouveau. En 20 siècles de christianisme, il y a eu vraiment plein de gens qui ont annoncé la fin du christianisme. Voilà. Parfois d'une façon un petit peu froide, d'autres fois en le souhaitant très, très activement, mais on peut penser dans l'histoire récente, en 1947, juste après-guerre, le cardinal Suard qui disait, qui avait écrit un petit livre qui a eu beaucoup de succès, « Essor ou déclin de l'Église ». Voilà. On peut penser au moment, si on fait du rétro chronologique, au moment de la loi de 1905, effectivement, où là aussi on annonçait que la loi de 1905 allait faire disparaître l'Église. Au moment de la Révolution, c'était une époque là où il y avait vraiment du sang, mais du sang voilà, qui coulait. Le but était vraiment de faire disparaître l'Église. On peut penser à des époques encore plus au Moyen-Âge. Donc l'annonce de la fin du christianisme, on en a connu un sacré paquet et dans des conditions qui étaient autrement plus difficiles que celles d'aujourd'hui. La question de l'érosion de la pratique, qui est aussi évidemment un indicateur, me paraît là aussi à nuancer. C'est réel, mais à nuancer. À nuancer pourquoi ? Parce que malgré tout, on estime que dans les études d'aujourd'hui, il y a entre 3 à 4% des Français qui vont à la messe tous les dimanches, tous les deux dimanches, etc. Ça fait quand même, à minima, 2 millions de personnes. C'est quand même pas rien. Quand on compare, par exemple, à la grande manif qu'il y a eu après les attentats, etc., on a dit que c'était une manif absolument historique parce que, justement, à grand renfort de médias, d'émotions, de meurtres, de peur du djihadisme, etc., France entière, les manifs ont réuni 3 millions de personnes. Il faut juste se dire que de façon paisible, sans aucune injonction médiatique, sans aucune injonction politique, sans aucun appel de personne, il y a des gens qui paisiblement vont à la messe, environ 2 millions de personnes, à peu près, tous les semaines, tous les mois. Donc, érosion, mais quand même, ça fait quand même du monde qui reste. Et le deuxième élément qui me paraît beaucoup plus fort encore que celui-ci, c'est qu'on compare, en fait, l'adhésion au christianisme avec la pratique dominicale, ce qui me paraît être aujourd'hui totalement absurde, et qui, entre parenthèses, me paraît, dans ma petite théologie à moi, même pas simplement aujourd'hui, totalement absurde aussi. Voilà. Être chrétien, c'est pas aller à la messe tous les dimanches. Évidemment, c'est une source, c'est un sommet, c'est une communauté, c'est tout ce qu'on veut. OK. Mais enfin, on est quand même à une époque où il y a, je pense, infiniment plus de gens qui, pour leur foi, vont s'engager au Secours catholique, accueillir des migrants, faire de la méditation, enfin, je ne sais pas quoi, toutes les activités qu'on veut, sans, finalement, exactement comme les Restos du Cœur, par exemple, hein, ou d'autres, sans, justement, aller à la messe une fois toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les quatre semaines, etc. Et pourtant, voilà, on peut penser au cours Alpha, on peut penser, en fait, qu'on vit à une époque qui n'est pas du tout celle d'il y a, pour le coup, d'il y a 40 ou 50 ans, où les zones de contact, les zones de pratique, les zones de contact avec le christianisme, en fait, sont infiniment plus importantes qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, c'était essentiellement le contact avec la vie chrétienne, c'était essentiellement un contact liturgique et sacramentel. Aujourd'hui, cette dimension liturgique et sacramentale, elle demeure, mais elle est réduite par rapport à plein d'autres activités culturelles, méditatives, spirituelles, enfin, ainsi de suite. Donc si, en fait, tous ces journalistes qui nous veulent du bien, pour nous dire évidemment la vérité de ce que l'on vit chacun dans nos vies, en réalité prenaient des vrais indicateurs de mesure de l'engagement des chrétiens dans la société, on ne serait pas à 3 à 4%. Voilà. Donc là aussi, encore une fois, je ne contredis pas, je nuance et je pense qu'on serait fort étonné. Et puis, dernier élément, me semble-t-il, c'est qu'il faut aussi arrêter avec cette histoire d'un âge d'or du christianisme qui aurait existé. Je crois que c'est totalement un mythe. Il y a eu des périodes dans l'Église qui ont été plus fastes que d'autres, des périodes qui ont été plus difficiles que d'autres. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas une période faste. Et les derniers événements ne font qu'entériner ça. Mais enfin, ce n'est pas non plus, on ne va pas dire qu'on tombe de l'armoire, que ça va définitivement enfoncer le christianisme, qui était quand même déjà dans notre société quand même bien justement en décalage avec le reste de la société. Donc, mais il ne faut pas s'imaginer non plus qu'il y a une période dans l'histoire, en tout cas occidentale, où à un moment donné, il y aurait eu des vocations sacerdotales à n'en pas finir, les abbayes qui auraient été pleines, et que les rares personnes qui n'étaient pas été converties à l'Évangile auraient piétiné en demandant le témoignage de chrétiens ardents et qui, par leur ferveur et leur prière, les auraient converties d'un coup de baguette magique. Enfin, ça n'existe juste pas. Voilà, ne serait-ce que dans une époque récente où l'Église était, on va dire, très vivante en termes de vocation de mission à la fin du 19e, c'était aussi une période où il y avait énormément d'opposition justement anti-église, anti-catho, anti-protestant, etc. Donc voilà, nuancer vraiment ce mythe de mon point de vue qu'il aurait existé un âge d'or. Alors en fait, la question donc à se poser, c'est qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Et donc, est-ce qu'effectivement est en train de vivre la fin du christianisme? Je mets fin à ce suspense insoutenable, en ce qui concerne en tout cas ma conviction. Je crois que nous ne vivons clairement pas du tout la fin du christianisme. On peut le dire soit par peur, soit parce qu'on en a envie, mais je crois que ça n'est pas réel. Je pense qu'en revanche, on vit bien la fin de quelque chose. Et c'est là où, encore une fois, tout ce que je viens d'énoncer là, me paraît pour moi indiscutable. Nous vivons bien la fin de quelque chose, mais nous vivons la fin d'un christianisme, mais pas la fin du christianisme. Et ce n'est pas qu'une nuance langagière pour se faire plaisir, c'est juste une réalité. Nous vivons la fin d'un christianisme. En l'occurrence, non pas de ce que porte le christianisme en son cœur, en son sein, voilà, qui est juste le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, j'y reviendrai, ça me paraît difficile de pouvoir discuter cela. En revanche, ce qui change, c'est la façon dont le christianisme se présente au monde, la façon dont il va rencontrer ses contemporains. C'est ça où il y a une fin et donc une transition. Et nous sommes d'une génération transitionnelle, au sens où, je ne dirais pas en transit, mais une génération qui vivons cette transition. Voilà. Et en ce sens-là, nous avons une chance extraordinaire, malgré justement les apparences, les sinistroses, etc. Voilà. Nous sommes les acteurs de cette transition. Alors, c'est quoi ces fins d'un christianisme pour entrer dans un autre? Il me semble qu'il y a une reconfiguration de la proposition chrétienne qui peut-être est davantage centrée sur la personne, qui peut-être sollicite davantage la liberté profonde et non pas la docilité, mais solliciter la liberté profonde. Il me semble que ce passage aussi d'un christianisme à un autre, c'est peut-être délaisser une parole d'autorité au profit peut-être d'être davantage dans l'attention à l'autre. Peut-être fin d'un christianisme d'autorité vers un christianisme de compagnonnage. Peut-être fin d'un christianisme de pouvoir vers un christianisme plus humble. Peut-être fin d'un christianisme de tradition pour aller davantage vers un christianisme de conversion. Peut-être fin d'un christianisme de prescription, davantage pour aller vers un christianisme de rencontre. Voilà. Autorité versus compagnonnage, pouvoir versus humilité, tradition versus conversion, prescription versus rencontre, et probablement, vous pourriez poursuivre cette liste. Et c'est ce passage que nous sommes en train de vivre. Voilà. Il y a pour moi quelque chose qui est à la fois un signe et un moteur, c'est le pape François. Un signe, en disant ça, je ne fais pas de la François Mania, ce n'est pas le propos. J'essaye de regarder finalement ce qui est là. Ce qui est là, c'est que cet homme, évidemment, dans la foi, tout ça, c'est l'Esprit Saint qui l'a appelé, tout ça, bon, ok, tout ça, enfin, évidemment, enfin, je veux dire, puis je ne vais pas discuter avec l'Esprit Saint qu'il n'était pas là au conclave, je ne me permettrai pas. Mais en pratique, c'est quand même des hommes qui ont élu, qui ont choisi le cardinal Bergoglio, en l'occurrence en le connaissant, en sachant très bien le bonhomme qu'il était d'une culture différente, qu'il avait un programme quand même de réforme de la curie dont on peut discuter, etc. Mais enfin bon, il avait quand même, donc ils l'ont choisi. Voilà, ils l'ont choisi. Donc, c'est bien le signe que, voilà, l'Église en son sein, voilà, veut. Voilà. Et en même temps, on voit bien combien il essaye, en tout cas, d'accompagner et de nous appeler, justement, à être davantage dans le compagnonnage, dans la rencontre, dans la conversion, dans le service des pauvres, à être l'Église comme hôpital de campagne. Voilà. Il préfère une Église qui se trompe, mais qui est au service des pauvres, qu'une Église qui reste tranquillement dans son canapé, enfin, ainsi de suite. Voilà. Donc, je pense que nous vivons, non pas la fin du christianisme, mais la fin d'un christianisme. Et que nous avons cette chance d'être cette génération qui vit ce passage. Cette chance, parce qu'à la fois, nous en sommes les bénéficiaires. Moi, quand je me rappelle de ce que me racontaient mes grands-parents ou ma vieille marraine, vraiment, je ne sais pas si à leur époque, si j'avais vécu à leur époque, je ne sais pas si je serais encore chrétien. Vraiment. pour le côté, justement, enfin, quand elle me raconte comment se passaient les confessions, les machins, enfin, moi, avec le tempérament que j'ai, enfin, non seulement je serais barré, mais définitivement, quoi. Enfin, donc, moi, j'estime que c'est une chance. L'ouverture, voilà, au laïc, à l'autonomie, à davantage de liberté, etc. Faut quand même se rendre compte d'où on vient, quoi. Hein. Voilà. Donc, on bénéficie de ça. Et en même temps, nous en sommes les acteurs. Et ça veut dire que là, la contribution de chacun est indispensable. Cette transition, pour faire connaître le christianisme, a besoin de chacun. Il en manque un, c'est un de trop. Un de nous. Il en manque un de nous, c'est un de trop. Voilà. L'engagement de chacun est requis, avec son charisme, avec son âge, avec sa classe sociale, avec sa formation, peu importe, évidemment. Évidemment. Et tant bien entendu, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais le but, quand je dis que chacun est requis, chacun est appelé, ce n'est pas pour faire perdurer l'Église. L'Église, elle n'existe pas pour elle-même. En fait, on s'en fout complètement. L'Église, elle est là pour le monde. Elle est là, en fait, pour le monde. Elle est là pour donner le Christ au monde. C'est une formulation confessionnelle. En réalité, elle est là pour donner quelque chose de l'ordre de la vie au monde. Donc, en fait, elle n'existe pas pour elle. Elle n'existe pas pour elle, ça n'existe pas. Enfin, ce n'est pas chrétien de dire qu'une institution doit exister pour elle-même. Elle est là pour se donner au monde et pour donner le Christ au monde. C'est sa seule raison d'être. Du coup, ça, c'était le préambule. Alors, vous dites, on n'est pas couché. J'ai essayé d'être... Mais donc, du coup, à partir du moment, effectivement, où en tout cas, moi, et comme j'ai le micro, j'en profite, je considère qu'en effet, nous ne vivons pas à la fin du christianisme et d'un christianisme, du coup, la suite logique, c'est que oui, il y a donc une utilité aux chrétiens. Parce que c'est quand même la question de départ qu'avait posée Marie, à quoi sert un chrétien ? Donc oui, donc du coup, il sert à quelque chose, puisqu'on considère que la parenthèse n'est pas fermée. Voilà. Qu'en fait, elle se fermera à la fin du monde, en réalité. On peut se dire ça avant. En fait, il me semble, en tout cas, moi, c'est ma façon de comprendre ce que nous dit la tradition chrétienne et l'Évangile. Donc, c'est rien de plus, hein, mais c'est ma façon. C'est trois utilités. La première, c'est de vivre un humanisme au service de la vie. Là, tous les mots sont importants, mais je vous rassure, je les apprendrai. Hein. Vivre un humanisme au service de la vie. La deuxième utilité, c'est de... promouvoir une anthropologie épanouissante. Promouvoir une anthropologie épanouissante. Et la troisième utilité, c'est de proclamer la résurrection. Voilà, proclamer la résurrection. Alors, non, il n'y a pas de tableau. Enfin, si, il y a un tableau, mais il vaut mieux que ça ne soit pas... Voilà, on s'est compris. Alors, du coup, je vais vous demander un effort d'imagination. Trois cercles concentriques. Donc, le cercle extérieur, vous y mettez justement vivre un humanisme au service de la vie. Le cercle du centre, c'est donc promouvoir une anthropologie épanouissante, et puis tout à fait, donc au cœur, proclamer la résurrection. Vous avez l'image en tête ? Ok. Alors, le troisième cercle, pourquoi c'est le plus extérieur ? Parce que c'est un cercle qui est profondément chrétien, mais dont les chrétiens n'ont absolument pas le monopole. Mais absolument pas le monopole. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour vivre un humanisme au service de la vie. Ça, je crois que c'est clair. En tout cas, c'est clair, mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est évident. Donc, et surtout de le dire, on a tous sûrement rencontré des personnes qui n'étaient pas chrétiennes et qui pourtant, voilà, nous bluffaient, j'allais dire, dans la capacité à, justement, servir, s'occuper des pauvres, enfin, ainsi de suite. Voilà. Alors, peut-être quelques remarques. La première, donc, les chrétiens n'ont pas le monopole de l'humanisme, de la solidarité, de la fraternité, etc. Nul n'est besoin d'être chrétien pour être humaniste. Voilà. Qu'en langage chrétien, humaniste, qu'on appelle la charité, la miséricorde, bon, enfin, des choses comme ça. Voilà. À partir de cette base-là, il me semble que, d'un point de vue chrétien, cette dimension de charité, d'exercice de la charité, etc., c'est quelque chose qui n'est pas optionnel. C'est quelque chose qui ordonne la vie chrétienne. En tout cas, qui doit ordonner la vie chrétienne. Tout est ordonné à l'exercice de la charité. Donc, tout est ordonné au service de l'autre. Tout, ça veut dire que ce n'est pas, grosso modo, bah, tiens, allez, moi, je vais m'occuper de charité quand je serai à la retraite, quoi. Parce que, bon, pour l'instant, vous comprenez, là, je travaille. Ça, on a beau s'engager quand on est à la retraite, enfin, si on le pense comme ça, dans des actions hyper caritatives, etc., donc, évidemment, c'est très bien. Mais La façon de le penser comme ça, en disant « je vais m'occuper de charité quand je serai à la retraite et quand j'aurai du temps », n'est pas chrétien, de mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord et me balancer des tomates, ou en tout cas attendre le temps d'échange dimanche pour me balancer les tomates. Mais ça n'est pas chrétien. Pourquoi ? Parce qu'être chrétien, ce n'est pas être gentil. Voilà, ce n'est pas être gentil, ce n'est pas rendre service, c'est ordonner toute sa vie à la dynamique du service. Et donc, ça n'est pas optionnel, mais, me semble-t-il, ça veut dire que donc, toute sa vie est ordonnée. Donc, c'est ses engagements, mais sa façon de travailler, sa façon de donner la vie, la façon dont on va gérer son temps, dont on va gérer sa retraite, dont on va aussi gérer son patrimoine financier, enfin, je ne sais pas quoi, etc. Tout doit être ordonné au service. Et au service de quoi ? Au service de la vie. C'est pour ça que j'appelais cette utilité « vivre un humanisme au service de la vie ». Et ça, là, ça devient essentiel. Là, ça devient essentiel. Parce qu'il n'a nulle part dans l'Évangile, je n'ai vu écrit qu'il fallait céder. Céder au sens de S apostrophe A-I-D-E-R. Il n'y a pas marqué « aidez-vous les uns les autres ». Enfin, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et donc, on n'est pas dans le registre de se rendre service ou de céder, on est dans le registre de la vie. Et donc, l'humanisme chrétien est un humanisme au service de la vie. Et là, pour moi, là, ça commence à devenir intéressant. Parce que finalement, on est à une époque où il y a plein de gens qui se réclament humanistes et qui, au nom de leur humanisme, finalement, vont pratiquer l'euthanasie. Je ne vois pas en vertu de quoi je dirais qu'ils sont moins humanistes que moi. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'autorise pas à considérer que je suis plus humaniste qu'eux, ceux qui font la promotion et l'action de l'euthanasie. Je dis juste que tel que moi je comprends en tout cas la révélation chrétienne, être humaniste, c'est au service de la vie, surtout quand la vie devient de plus en plus fragile. Et qu'on est à une époque, effectivement, justement, sécularisée, plurielle, etc., où, voilà, par humanisme, on peut faire des choix qui ne sont pas, justement, au service de la vie, en tout cas, tel que la tradition chrétienne l'a. Donc, il me semble que c'est vivre, donc concrètement, voilà, on ne se paye pas de mots, un humanisme, mais qui soit véritablement au service de la vie, surtout quand la vie devient de plus en plus fragile, parfois même insensible, invisible, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point qui me paraît capital, que donc l'humanisme chrétien, ce n'est pas simplement de l'ordre de l'aide, c'est de l'ordre de la vie, de servir la vie. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une formule, on pourra la reprendre dans le temps d'échange si vous voulez dimanche, c'est que c'est quoi la différence entre la solidarité laïque, on va dire, et la charité de l'Évangile ? J'allais dire, finalement, il n'y en a aucune. Puisqu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour servir la vie, en fait. Voilà, de la façon la plus belle, la plus authentique, etc. Voilà, on a tous, encore une fois, des exemples en tête, des visages qui nous reviennent, etc. Voilà. Il me semble que dans l'exercice de la charité chrétienne, il y a peut-être simplement le fait que consciemment, il s'agit d'être au service de la vie en voulant consciemment communiquer la vie de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer la vie de Dieu si on n'est pas chrétien. Personnellement, je pense que si. Simplement, le chrétien, c'est celui qui sait quelque part ce qui est en train de se jouer. Ça ne veut pas dire qu'il le fait mieux. C'est-à-dire qu'il sait ce qui est en train de se jouer. Que finalement, la vie qu'il est en train de servir, donc, elle circule en lui, elle passe en lui, et qu'en réalité, c'est la vie de Dieu. Donc ça, c'est... Bon, voilà. Et alors, ça, c'est un premier point. Deuxième point sur la dimension, un petit peu, justement, de vivre un humanisme au service de la vie, c'est qu'il me semble que dans la tradition chrétienne, il s'agit de prendre en compte toute la dimension de la personne. C'est-à-dire qu'il s'agit de vivre un humanisme, j'allais dire, au service de la vie d'une personne qui s'accompagne corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit, dans les trois dimensions. Donc, à partir du moment où on considère que, justement, l'humanisme chrétien, c'est un humanisme au service de la vie, c'est la personne dans toutes ses dimensions. Donc, c'est effectivement des choses qui sont matérielles, qui sont temporelles, etc. Mais c'est aussi, ça passe toujours par une dimension relationnelle. Je ne vois pas comment on peut exercer la charité chrétienne s'il n'y a pas de relation, quel que soit le service, évidemment. Mais ça s'ancre dans une incarnation, et donc dans une relation. Mais aussi une prise en compte des besoins, on va dire spirituels ou existentiels, quelque chose comme ça. Donc, c'est prendre en compte toutes les dimensions de la personne. Ce que, dans la tradition de l'Église, on dit, il s'agit d'accompagner tout l'homme, tout homme et tout l'homme. Voilà. Tout homme et tout l'homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, dans l'exercice de la charité chrétienne, il y a une dimension d'accompagnement existentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas, moi, je fais l'écho de ce que j'ai pu vivre auprès des personnes de la rue, ou pendant plus de 17 ans, j'étais membre d'un mouvement, d'une association chrétienne qui a accompagné des personnes de la rue. Il y avait le souci à la fois d'un accompagnement social, matériel, etc. Il y avait le souci de créer une relation d'amitié, pure amitié gratuite avec ces personnes de la rue, ces personnes prostituées, hommes, femmes, transsexuelles, tout ce qu'on veut dans tous les sens. Mais il y avait aussi cette dimension de jusqu'où est-ce que je suis prêt à les accompagner? Jusqu'où dans leur interrogation existentielle? Qui a fait l'expérience de la maladie, par exemple? Qui a fait l'expérience de la dépression? Qui a fait l'expérience de la rue? Et qui peut dire... Finalement, tout ceci ne m'a pas profondément remis en question. Quand on est atteint d'une maladie grave, il y a tout qui bascule. Son rapport à soi, l'image qu'on a de soi, le rapport à son conjoint, son partenaire, à son je sais pas quoi, à ses enfants, la place dans la société, on pense à la mort, on pense à ce qu'on a réussi, on pense aussi à tout ce qu'on pense qu'on a raté. Toutes ces questions qui sont de nature existentielle. Voilà. Et jusqu'où je suis capable, non pas simplement d'aider l'autre, mais jusqu'où je suis capable de l'accompagner dans ces questionnements-là, non pas pour lui apporter des réponses à deux balles toutes faites, apprises dans un manuel à gogo, mais où est-ce que je suis capable, moi-même, d'aller pour accompagner l'autre jusque dans ces questionnements? C'est ça, accompagner quelqu'un dans toutes ces dimensions. Voilà, c'est ça, accompagner quelqu'un dans toutes ces dimensions. Et je me rappelle, simplement pour illustrer, pour revenir aussi dans le temps de questions, c'est pas tant qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, mais c'est qu'est-ce que je veux vivre avec l'autre et qu'est-ce que je veux lui faire vivre. C'est ça le sujet. Et c'est vrai quand on accompagne des personnes en fin de vie, c'est vrai quand on accueille des migrants, c'est vrai quand on va porter la soupe à des personnes de la rue, c'est qu'est-ce que je veux vivre avec cette personne? Et qu'est-ce que je veux lui faire vivre? Et là, on revient au service de la vie, quelque chose de l'ordre de la vie. Voilà. Et je pensais justement, dans la rue, on meurt beaucoup dans la rue. Enfin, je parle des personnes de la rue, on meurt beaucoup de personnes qu'on avait rencontrées assez longtemps. Et puis, qui était en fin de vie, même si elle était jeune, mais bon, voilà, elle était malade, elle était très abîmée. Voilà, qui nous a dit, en fait, de deux jours, on l'a vu, en fait, on tournait comme ça avec ma partenaire de tournée rue, là. On l'a vu deux jours avant sa mort, et deux jours avant, en fait, elle nous a dit, bon, je sais que là, je vais mourir, mais au moins, grâce à vous, je vais mourir vivant. Voilà, grâce à vous, je vais mourir vivant. C'est juste pour... Alors, c'est le boulot de l'association des captifs, c'est le boulot d'autres associations, etc. Peu importe. Hein. Enfin, voilà, c'est juste le boulot d'humains qui vont rencontrer un humain. Quoi. Enfin, voilà, c'est juste pour pointer ce fait que l'exercice de la charité chrétienne, c'est accompagner quelqu'un dans toutes ses dimensions, corporelles, relationnelles, psychiques, mais aussi spirituelles. Et puis, dernier point de repère, peut-être rapidement pour avancer, c'est que l'exercice de la charité chrétienne, ça n'est pas de l'assistanat. Ça n'est pas de l'assistanat. Et ça, c'est un point qui, en tout cas, moi, est toujours à la fois compliqué et douloureux. Compliqué parce que c'est difficile de ne pas être dans l'assistanat. En tout cas, moi, je trouve ça difficile. Et la deuxième chose, c'est douloureux parce que un des mots qui est le plus beau, justement, dans toute la tradition chrétienne, c'est le mot de charité, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est pas optionnel. La charité, c'est juste le cœur de Dieu, quoi. Enfin, c'est juste ça. Et c'est devenu aujourd'hui, finalement... Un mot qu'on emploie de façon un peu ironique, quoi. Tu fais la charité. Donc, méprisant. Donc, on peut se dire, une fois qu'on a dit que tout le monde est méchant et tout le monde en veut à l'Église, on peut se dire que l'Église y est peut-être aussi pour quelque chose. Pour, au bout du compte, avoir fait que c'est quand même cette idée que, dans la culture générale, on a un peu cette idée que, voilà, faire la charité, c'est faire un peu la pitié, etc. J'aimerais juste... rappeler une phrase qu'a dite le pape François juste après son... Enfin, qui était devenu pape. Je le cite. Donner de la nourriture sans offrir la possibilité de marcher par soi-même ne suffit pas. Une charité qui laisse le pauvre tel quel est insuffisante. La charité n'est pas simplement de l'assistanat et encore moins de l'assistanat pour tranquilliser les consciences. Non, ça n'est pas de la charité, c'est du négoce, c'est des affaires. Je vous la refais ou vous avez votre dose là ? c'est rude quand même. Mais voilà, il dit bien, quoi. C'est-à-dire que voilà, la charité, ce n'est pas de l'assistanat, ce n'est pas pour donner bonne conscience, et il ne suffit pas, justement, d'offrir de la nourriture sans essayer d'offrir la possibilité de marcher par soi-même. Et ça, ça me paraît essentiel à une époque où, justement, la charité s'est considérée comme externe. Et que, quelque part, on s'interroge aussi sur dans quelle mesure nos politiques sociales, etc., ne favorisent pas ça, etc. Et c'est là où on est bien, là aussi, sur le service de la vie. On dit qu'il faut aimer. Mais c'est quoi aimer ? Est-ce que aimer, et pour ceux d'entre nous qui sont parents, éducateurs plus largement, on peut dire aimer, c'est aimer, quoi. C'est entourer dans les bras, c'est dire à notre enfant qu'on l'aime, tout ça, on t'aime. Mais en fait, dans le fond, c'est pas ça. L'aimer, c'est faire tout pour qu'il grandisse et pour qu'à son tour, il puisse aimer. Qu'à son tour, il puisse aimer. Et est-ce que dans mes gestes de charité, l'exercice de la miséricorde, est-ce que finalement c'est vraiment ça que j'ai comme objectif ultime ? Qu'à son tour, la personne puisse aimer, à sa mesure. Voilà. Quel pas tu peux faire ? Peu importe, c'est un micro-pas, fais-le. Tu le fais pas ? Ben moi, je vais quand même t'aider à le faire. Voilà. Évidemment, c'est à nuancer, etc. Mais c'est ça la logique de la charité. C'est pas un amour fusionnel qui infantilise. Et je me dis que peut-être, probablement, dans nos pratiques de charité, mais pas nous là forcément, personnellement, bien que, je ne sais pas, en tout cas pour moi, oui, ça m'est arrivé. Hein. Mais dans l'histoire de l'Église, probablement a-t-on été à certains moments justement infantilisant de notre façon d'aider. Hein. Sinon, peut-être que nos contemporains n'auraient pas non plus peut-être cette idée-là aussi de ce qu'est la charité. Et on voit d'ailleurs que les grands saints, dans la tradition de l'Église, les grands saints de la charité, c'était pas des personnes commodes, gentilles et gna gna gna. C'était des gens, on peut penser évidemment à Mère Teresa, on peut penser au fondateur Joseph Wredinski de ATD Quart-Monde, on peut penser à Saint Vincent de Paul, on peut penser à Saint François, c'était des sacrés loustiques. Loustiques au sens, vous allez vous bouger maintenant, quoi. Parce que c'est ça qui humanise, parce que c'est ça qui fait recirculer la vie. Voilà, on n'a pas le temps de développer, on pourrait y revenir, mais pour dire que, dans l'exercice de la charité, pour moi, il y a deux visages. Il y a celui de l'aide, celui de la responsabilité. Il y a celui de répondre à un besoin, et il y a celui de solliciter le désir. Voilà. S'il n'y a que répondre à un besoin, on est dans l'infantilisation. Si on n'est que dans solliciter le désir, on n'est pas incarné parce qu'on n'est pas toujours capable de répondre à un désir. Parce que des fois, on est trop cassé. Et on a besoin, justement, d'être aidé, etc., etc. Mais c'est important d'être attentif à ces deux dimensions. Répondre à des besoins, solliciter le désir de la personne que l'on accompagne. J'avais rencontré, vous savez, Joseph Wredinski, ça vous dit quelque chose, hein, le fondateur d'ATD Quart-Monde, mouvement extraordinaire. J'avais rencontré une femme qu'il avait connue quand elle était jeune. Donc elle, du coup, quand je l'ai connue, elle n'était plus très jeune. Et je lui dis, parlez-moi du père Joseph, parce que moi, je ne le connais pas. Et j'aimerais bien, je ne le connais que par des bouquins, tout ça. Bon, voilà. Et donc, elle me raconte son histoire. C'était très, très beau, très touchant. Voilà. Et elle me dit, moi, je peux vous parler du père Joseph, hein, mais si vous en parlez, ça va pas aller. Mais je dis, pourquoi ? Oh là là, le nombre de fois qu'il m'a engueulé, Voilà. Sauf qu'il avait engueulé par bonté, par amour. Et c'est parce qu'il a engueulé, de fait, qu'elle s'en est sortie, qu'elle a appris à lire et qu'elle est sortie de son bidonville, etc. Bon, oui, 10h-20, donc j'avance. Donc ça, c'était le troisième cercle, vivre un humanisme au service de la vie. Okay, avec ce qui, pour moi, encore une fois, il n'y a rien de monopolistique de chrétien là-dedans, mais il y a des choses qui caractérisent quand même la façon chrétienne de vivre ça. Deuxième cercle, c'est donc promouvoir une anthropologie épanouissante. Alors là aussi, tous les mots sont importants. Promouvoir, anthropologie épanouissante. Donc en anthropologie, anthropologie, c'est un mot qui fait un peu savant, mais c'est en effet pour dire quelque chose de simple, qui est juste en fait la vision qu'on a de l'homme, la façon dont l'homme se regarde. Voilà, bon. Alors, et puis épanouissante. Alors, je vais commencer par épanouissante. Pourquoi je mets ce mot ? Parce que c'est vrai quand même que, confère ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'image, la représentation qu'ont beaucoup de nos contemporains du christianisme, c'est quand même des gens qui n'aiment pas le sexe, qui n'aiment pas le plaisir, faut se priver, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, ouais, c'est quand même un petit peu tout ça. Or, il me semble que l'anthropologie que porte la tradition chrétienne est une anthropologie, au contraire, qui est vraiment extrêmement heureuse, extrêmement joyeuse, quoi. Extrêmement joyeuse. Et donc, il y a vraiment ça à faire, soit à découvrir, soit à faire découvrir. Et souvent, d'ailleurs, c'est parce qu'on le découvre qu'on a envie de le faire découvrir à d'autres. Mais il me semble que la représentation qu'a la société aujourd'hui de l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire de la vision de l'homme que porte la tradition chrétienne, mais à des années-lumière de la réalité, quoi. De la réalité. Et donc là, il y a vraiment à faire découvrir ce que c'est que cette anthropologie chrétienne. C'est-à-dire cette vision que la tradition chrétienne, ce que la tradition chrétienne dit de l'homme. Alors, pourquoi ? Parce que c'est des sujets hyper d'actualité. Vous allez dire, qu'est-ce qui nous parle d'anthropologie, les 10 heures du soir, bon, tout ça, on ne va pas faire de la philo à cette heure-là. Ben si, on va en faire, je suis désolé. On va en faire parce que ça n'est pas de la philo, ça n'est pas de la philosophie. Aujourd'hui, on a une époque où toutes ces affaires de représentation de l'homme ont une déclinaison concrète, directe. Tous les sujets de bioéthique liés, par exemple, à la naissance, le tri des embryons, la détection, le dépistage préimplantatoire, etc., etc., etc. Ça, toutes ces questions, on ne peut y réfléchir que en fonction de l'image qu'on en a de l'homme. Si on considère que finalement un fœtus, un embryon, puis même un organisme, voilà, qui est dans le ventre d'une femme tant qu'il n'est pas né, tant qu'il n'est pas sorti, c'est un paquet de cellules. Ben, en effet, il n'y a pas beaucoup de questions éthiques à se poser. Hein. Si par contre on considère que ce n'est pas qu'un paquet de cellules, ben là ça devient un peu plus compliqué sur le plan éthique. Les questions de fin de vie. Là aussi, si on sent bien que en fonction de la représentation que l'on se fait de l'humain, ben, on n'apportera pas tout à fait les mêmes réponses sur la sédation profonde continue, sur le suicide assisté, sur etc., etc., etc. C'est vrai aussi, bien sûr, ces questions d'anthropologie, sur les questions liées justement à l'homosexualité, etc. C'est encore plus vrai, me semble-t-il, et d'une façon sacrément importante, en ce qui concerne justement sur les questions du genre, ça vous dit quelque chose, les théories du genre, voilà, qui sont liées justement, et sur la question du transhumanisme. Pour faire très court, la théorie du genre, c'est quoi ? C'est une théorie qui est née dans la dernière partie du XXe siècle, évidemment aux États-Unis, bien sûr. Donc ça arrive chez nous, évidemment, comme d'habitude, 20 ans plus tard. Et puis, la théorie du genre consiste à dire que finalement, à la fois notre identité sexuelle et notre orientation sexuelle, puisque ce sont deux choses différentes, hein, le fait que je sois un homme ou une femme, c'est une chose, le fait que mon orientation soit hétéro ou homosexuelle ou bisexuelle est autre chose. Donc la théorie du genre consiste à dire que finalement, le sentiment que j'ai de mon identité, enfin mon identité sexuelle n'est qu'un sentiment qui est construit par la culture. Hein, la théorie du genre, c'est ça. C'est que c'est la culture qui définit mon identité sexuelle et mon orientation sexuelle. Ça n'est pas mon incarnation, ça n'est pas la nature, ça n'est pas ma physiologie, ça n'est pas mon anatomie. D'accord ? Donc dans cet équilibre nature-culture, d'accord ? De fait, dans la théorie du genre, on considère que sur ces questions de genre, donc d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle, c'est uniquement la culture qui va décider. Ce qui fait qu'en effet, je peux changer d'identité sexuelle, mais même plusieurs fois, justement, dans ma vie. Pourquoi pas ? Parce que c'est la culture. Donc, c'est aussi mon choix. Donc ça, vous voyez bien, on est en question d'anthropologie. Avant d'être dans les questions d'idéologie, comme on veut bien nous le faire croire, entre les gentils, les méchants, les progressistes et les rétrogrades, bon, ça c'est bon encore une fois pour nos médias de balle, le sujet est en réalité beaucoup plus profond que ça. C'est un sujet anthropologique, c'est comment je regarde l'homme, comment il est constitué. Enfin, voilà. Donc, sur ces questions de théorie du genre, qui ne sont pas encore une fois que sont des choses très concrètes, puisque c'est l'orientation sexuelle, c'est l'identité sexuelle, mais on en parle de plus en plus hein, sur les sexes neutres, ça vous dit quelque chose. Et de plus en plus, hein, en Allemagne, par exemple, dans certains lands, mais en Australie ou dans des pays du nord de l'Europe, il y a des formulaires administratifs où il y a sexe, donc il y a marqué homme-femme et neutre. sexe neutre. Donc ça, c'est dans des... Et ça arrivera bientôt en France. Bon, voilà. Donc la théorie du genre, c'est directement enfin, une question anthropologique. Les questions de bioéthique, début de vie, fin de vie, on l'a vu. Et puis, troisième élément, le transhumanisme. Vous avez peut-être entendu parler du transhumanisme, qui est donc cette utopie philosophique qui, là aussi, quoi qu'on en nous en dise, quand, voilà, quand on nous en parle de façon vulgarisée, qu'avec ça, on va guérir le cancer, la leucémie, la maladie d'Alzheimer, etc., 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 etc. Ça, c'est du pipeau complet. On pourra y revenir dimanche si vous voulez. Ce n'est pas le sujet de la conférence là. C'est du pipeau complet, mais ce n'est pas le propos. Le propos, c'est juste de dire que le transhumanisme, justement, c'est une question anthropologique. Si je considère qu'effectivement, l'homme est un organisme, l'humain est un organisme biologique au même titre que n'importe quel animal ou n'importe quel robot, et qu'il n'y a pas de dignité, de niveau de dignité différente entre justement un animal, un robot et un humain, il n'y a aucune difficulté à hybrider un humain avec un robot. Aucune difficulté, justement, éthique. Si en revanche, je considère que dans l'humain, il y a quelque chose qui dépasse l'humain, je ne sais pas bien, on appelle ça l'âme, l'esprit, je ne sais pas trop, je n'ai pas les mots, mais je sens quand même que, voilà, quand je regarde la personne que j'aime, elle est peut-être un peu différente d'un cyborg, d'un organisme cybernétique ou d'un homard. Si intuitivement, je sens quand même ça, ben, ça va poser peut-être effectivement des questions un peu éthiques. Mais quand j'ai cette intuition que la personne que j'aime a une dignité un peu différente que celle du homard de l'écrevisse, ou de celle d'un cyborg, je fais de l'anthropologie. Intuitivement, je me dis, voilà, je ne sais pas bien mettre des mots pour décrire cette personne, ou mes enfants, etc. Mais intuitivement, ils ne sont pas tout à fait comme des robots ou tout à fait comme un homard, avec tout le respect qu'on a chacun pour les homards, bien sûr. Donc ça, c'est de l'anthropologie. Et donc, vous voyez, on est à une époque où maintenant, justement, il y a de telles évolutions culturelles par la mondialisation partagée rapidement, et puis surtout de telles évolutions technologiques, que la philosophie, elle devient pratico-pratique, au moins donc sur ces questions de bioéthique début-fin de vie, sur ces questions de théorie du genre, sur ces questions de transhumanisme. Voilà. Et donc, l'anthropologie, si on veut aider, si on veut s'aider soi-même, si on veut aider ses proches, mais surtout si on veut contribuer au débat dans la société pour non pas avoir raison ou pour faire valoir une idéologie, mais juste pour aider nos contemporains à adhérer à leur vie, à recevoir ce qu'ils sont dans la complexité, mais aussi l'intégralité de leur humanité, l'accueil de la vie, comment je traverse la maladie, comment je m'approche de la mort, comment j'essaie de l'apprivoiser le moins mal possible, avec toutes les angoisses qu'il y a, etc., en sachant très bien que tout ça, c'est j'ai besoin forcément d'autres pour pouvoir le vivre, que tout seul, c'est juste impossible. Voilà, d'où effectivement ce que vous rappeliez, et je vous en remercie Marie, sur effectivement des convictions. Nous sommes profondément fragiles, mais là où il y a de la fragilité, il y a toujours de la solidité, toujours, mais nous sommes tous interdépendants. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque part une façon non philosophique, très pragmatique, de définir pour moi notre anthropologie, et en tout cas ce que dit la tradition chrétienne de l'anthropologie. Donc l'anthropologie, la tradition chrétienne, elle a vraiment des choses à dire. Je suis désolé, on peut être pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre le diagnostic préventoire, pour ou contre la théorie du genre. Moi, tout ce que j'ai pu lire sur tous ces trucs-là, personne ne dit la vision qu'ils ont de la personne. Personne. Or, je ne vois pas comment on peut aborder toutes ces questions sans, à un moment donné, dire ce qu'on a dans le ventre, quoi. C'est quoi la vision que vous avez de la personne ? Moi, je veux bien dire qu'on peut changer d'identité sexuelle et d'orientation, mais vraiment, en plus, enfin, voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est quoi la vision que vous avez de l'humain ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais compris. J'ai jamais... Et donc, je pense qu'on est dans un moment de l'histoire, de l'humanité, où on a besoin vraiment de s'aider les uns les autres à mettre des mots sur ce qu'est l'humain. Et la tradition chrétienne, vraiment, est extraordinaire pour ça, parce qu'elle a beaucoup travaillé ces questions, qu'elle est une tradition qui est à la fois issue de la tradition grecque, à la fois issue de la tradition hébraïque, bien sûr avec la singularité chrétienne, et qu'on voit que cette anthropologie à trois dimensions, corps, psychisme, vie spirituelle, on la retrouve en fait dans la plupart des grandes traditions spirituelles et philosophiques du monde. Alors bien sûr, avec des connotations, particulières au christianisme, mais on trouve ça grosso modo, qu'il n'y a que dans cet Occident du 21e siècle aveuglé d'orgueil, aveuglé de rationalité technoscientifique, où on pense que l'homme est un pur organisme biologique qui n'est qu'un amas de cellules. Mais il n'y a que cette petite partie de la population sur cette petite séquence de temps qui croyons ça. Il faut quand même être conscient de l'orgueil qui nous aveugle, collectivement, bien sûr. Et donc là, on a besoin d'une anthropologie qui nous ouvre, qui nous donne du souffle, quoi. Pas pour le plaisir de se faire plaisir, mais parce que c'est la seule façon que les plus fragiles y trouvent leur place. Et les plus fragiles, ce n'est pas les autres, parce qu'on l'est peut-être déjà fragile. Et de toute façon, on le sera, à coup sûr, à coup sûr. Même si on se raconte des belles histoires, quoi, avec les robots, les greffes, les transplantations, les machines, les trucs. C'est bon, quoi, c'est bon. C'est bon. La vraie vie, ce n'est pas ça. La vraie vie, c'est qu'est-ce qu'on est fragile en réalité. Et qu'est-ce qu'on a besoin les uns des autres en réalité. Voilà. Alors, voilà, ça c'est l'anthropologie. Et de fait, l'anthropologie chrétienne, elle est donc clair, corps, âme, esprit, bon, je ne développe pas, si vous souhaitez, on y reviendra dimanche. Mais surtout, en effet, elle est vraiment épanouissante parce qu'elle nous aide à, justement à accueillir la vie, quoi. Et que la vie, elle n'est pas que corporelle, elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas non plus que dans la dimension empathique et émotionnelle. Il y a quelque chose de la vie qui nous traverse, qui nous est donné, que nous avons à recevoir pour pouvoir nous-mêmes, justement, mieux la donner et la faire circuler. Voilà. C'est, je dirais, il y a une vie qui nous est donnée, qui nous tient debout. Même, voilà, enfin, c'est cette vie qu'il s'agit de transmettre. Voilà. Et c'est ça, pour moi, quelque part, la vie spirituelle. Ce n'est pas d'abord d'aller à la messe tous les dimanches. C'est cette dimension, en fait, d'une vie qui nous est donnée. Voilà. D'une vie infiniment fragile, silencieuse, insensible. Mais d'autant plus est-elle insensible, silencieuse, etc., d'autant plus probablement est-ce la vraie vie, quoi. Celle qui nous appelle justement à demeurer éternelle en nous, en fait. Superbe transition que je viens de faire, je viens de me rendre compte, avec donc le troisième cercle, celui qui est au centre. Parce qu'en réalité, là, le deuxième cercle, je ne l'ai pas dit, mais vous aurez senti et compris par vous-même que là aussi, en fait, cette anthropologie, là, corps, âme, esprit, dont notre époque a tant besoin, elle est évidemment profondément chrétienne, mais là aussi, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour adhérer à cette anthropologie. On n'est pas encore dans la confession de foi. Il y a plein de gens qui ne sont pas chrétiens, ou qui pensent ne pas l'être, je ne sais pas, mais qui se retrouvent bien là-dedans, qui disent bien, ben, je sens bien qu'en moi, il y a quelque chose, voilà, enfin, en l'homme, il y a quelque chose qui dépasse l'homme, et puis moi, je ne prie pas parce que je ne crois pas à ton Dieu, mais des fois, je m'adresse à je ne sais pas qui, ou des gens qui disent, ben, il y a quelque chose après la mort, je ne sais pas. Moi, je trouve ça très beau, quoi. Moi, je trouve ça très beau, enfin, déjà, que quelqu'un me partage ça, moi, déjà, moi, je suis plein de reconnaissance, quoi. Plein de reconnaissance, je trouve ça extraordinaire, quoi. Extraordinaire de pouvoir partager, quoi, ça. Mais en fait, c'est, me semble-t-il, il porte une anthropologie, peut-être sans le savoir, qui en fait est très proche de cette anthropologie chrétienne. Voilà. Donc, ce deuxième cercle, là aussi, les chrétiens n'ont pas le monopole. Mais il s'agit vraiment de la promouvoir, de l'habiter surtout. D'habiter, de vivre ce que j'appelle de vivre en 3D. De vivre en trois dimensions. Corps, psychisme, esprit. Et donc, transition vers le troisième cercle. Le troisième cercle, vous vous rappelez, c'est donc proclamer la résurrection. Proclamer la résurrection. Alors, là, pour le coup, proclamer la résurrection, là, c'est spécifiquement chrétien. C'est spécifiquement chrétien. Voilà. On peut vivre un humanisme au service de la vie sans être chrétien, en vivant chrétiennement, je dirais, toutes les dimensions qu'on a dit là. On peut partager cette anthropologie voilà, profondément chrétienne voilà, sans confesser la moindre foi chrétienne. En revanche, quelqu'un qui dit « Oui, moi, je crois en la résurrection du Christ » et qui dit « Je ne suis pas chrétien », là, moi, je demande à voir. Voilà. Et inversement, voilà, c'est là où, pour le coup, là, il y a effectivement ce qui caractérise le chrétien de façon singulière, parce qu'il est caractérisé par les deux autres cercles, hein, encore une fois. C'est le pack complet, être chrétien. C'est le pack complet. Voilà. C'est l'action, service, c'est la vision de l'homme dans toutes ses dimensions, et c'est donc la résurrection de la chair. Alors là, on rigole moins, la résurrection. On rigole moins parce que là, c'est plus compliqué d'en parler. Mais moi, je n'ai pas de difficulté à dire que je vais en parler d'une façon très incomplète, ça c'est évident, probablement maladroite. certainement pas clair, mais c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis pas complexé là-dessus. Je suis pas complexé là-dessus. Sur deux trucs, je suis complexé. Hein. Mais moi, je suis pas complexé là-dessus. D'abord, il me semble que il faut bien voir que s'il y a une église, au sens large, pas l'église ancienne, s'il y a une église, c'est parce qu'il y a eu résurrection du Christ. Il n'y aurait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas d'église. On ne serait pas là. Ça serait quand même super dommage, quoi. Enfin, vous, je ne sais pas, moi, je passe déjà une très bonne soirée là. Donc, ça serait quand même très dommage, rien que pour ça. Mais oui, il n'y aurait pas de chrétiens. Il y a des chrétiens, et donc une église en tant que communauté de croyants, parce qu'il y a eu résurrection. Donc, il faut quand même être au clair avec ça. Et ça, toute l'Écriture nous le dit, toute la tradition nous le dit. Saint-Pierre le dit hein, dans les Actes des Apôtres. Hein, voilà, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Et nous en sommes témoins. Ça, c'est vraiment le truc de base du chrétien. Ça tombe bien, c'est Pierre qui est quand même le chrétien de base. De base, je dis ça avec admiration. Parce qu'on a beau toujours le présenter un peu comme un neuneu, enfin, c'est quand même un type qui avait un amour pour le Christ dans le cœur. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir le même, quoi. Voilà. Ce Jésus que vous avez crucifié est mort. Dieu l'a ressuscité, donc il ne s'est pas ressuscité tout seul. Dieu l'a ressuscité, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas Jésus qui se donne la vie à lui-même. Et nous en sommes témoins. Donc, en fait, c'est ça. C'est nous en sommes témoins. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Église, qu'elle disparaisse en tant que telle, en fait, peu importe. Sauf que ce qui est gênant, c'est que sa seule raison d'être, c'est d'être témoin. C'est d'annoncer, c'est d'être missionnaire, c'est de dire quelque chose, c'est de donner cette vie en réalité qui est le Christ. Voilà. Donc, pour le dire d'une façon, je trouve, très saisissante dans le raccourci, c'est saint Augustin qui disait « La foi des chrétiens, c'est la résurrection du Christ. Voilà. » La foi des chrétiens, c'est la résurrection du Christ. Voilà, saint Augustin, c'est un père de l'Église. Et ça, ça me paraît voilà, enfin, juste en fait, la seule chose à retenir du catéchisme pour moi. La foi des chrétiens, c'est la résurrection du Christ. Alors, il faut être sérieux avec cette question. Il faut être très, très sérieux. Parce que si, de fait, Jésus n'est pas ressuscité, ou en tout cas, si je ne suis pas sur ce chemin vers le Christ ressuscité, ça veut dire que je ne peux pas prier Jésus. Je ne peux pas prier Jésus s'il n'est pas ressuscité, s'il n'est pas vivant. Vous voyez, c'est faux. Voilà, pour peu qu'on ait un peu, parfois, une prière un peu automatique, machin, et parfois c'est bien. Mais il faut bien voir les choses. Si Jésus n'est pas ressuscité, je peux évoquer Jésus, mais je ne peux pas invoquer Jésus. Je peux l'évoquer, je peux en parler, mais je ne peux pas l'invoquer, je ne peux pas le prier. Donc, vous voyez ce que ça fonde quand même, cette affaire. Au sens, ce n'est pas une option, le fait d'être tourné vers cette résurrection du Christ. Si je dis non, mais moi je crois bien au truc, là, au truc des chrétiens. Si, si, moi je suis chrétien, mais pas la résurrection. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu pries? Tu parles de Jésus, mais tu ne peux pas invoquer. Si tu l'invoques, si tu le pries, c'est que quelque part, il y a quelque chose en toi qui, malgré tout, te fait dire que, comme tu disais tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose après la mort. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Si Jésus n'est pas ressuscité, je peux l'évoquer, mais pas l'invoquer. Si Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que, finalement, ce sont les chrétiens qui le font vivre. Mais ce n'est pas le Christ qui me fait vivre. S'il est toujours mort, je ne vois pas comment il me ferait vivre. Donc, s'il n'est pas ressuscité, c'est moi qui le fais vivre. C'est la communauté des chrétiens qui le fait vivre. Mais ce n'est pas lui qui le fait vivre. Qui fait vivre les chrétiens, la communauté et nous personnellement. Enfin, voilà, c'est pas une option, quoi. C'est juste ce qui fait que nous sommes chrétiens ou pas. Je me rappelle que quand j'avais justement travaillé un peu, donc ce livre s'appelle « À quoi sert un chrétien ?», j'avais rencontré, j'avais discuté avec une religieuse bénédictine. C'est du sérieux, c'est du sérieux. Non, mais il y en a d'autres qui sont sérieux hein, dans la catégorie religieuse. Hein. Mais enfin, quand même, les bénédictins, c'est quand même du lourd. Quoi. Tradition, voilà, etc. Et donc, on discutait, puis elle me disait, voilà, mais si dans le christianisme, il n'y avait pas la résurrection, je serais bouddhiste. si dans le christianisme, il n'y avait pas la résurrection, je serais bouddhiste. Et ça, c'est extraordinaire comme phrase. Ça dit, pour moi, c'est une phrase aussi puissante que celle de saint Augustin. La foi des chrétiens, c'est la résurrection du Christ. C'est une phrase aussi puissante. En effet, elle dit quoi? Elle dit, ben voilà, si c'est pour avoir une vie de nonne, pour méditer, pour avoir une vie sobre, une vie communautaire, une vie de méditation, ben, je peux aller chez les bouddhistes, c'est très bien. Mais sauf que, voilà, il y a la résurrection. Et c'est ça qu'il a appelé. Et c'est ça qui fait qu'elle est chrétienne, qu'elle est religieuse chrétienne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. Et que cette affaire de résurrection, évidemment, c'est un événement qui s'est produit dans la personne du Christ, à un moment donné de l'histoire, mais qui, évidemment, c'est une promesse. La résurrection, c'est une promesse pour nous. Et ce n'est pas une promesse pour ceux qui vont à la messe tous les dimanches. C'est une promesse, on le dit dans la prière eucharistique, pour la gloire du Dieu, le salut du monde. C'est donc pour tous, quelle que soit leur culture, enfin, etc., leur époque, ainsi de suite, mais c'est aussi pour le salut du monde, donc pour toute la création, pour tout le cosmos, pour tout l'univers. Je disais, parce que parfois, on a une vision un peu rétrécie de la résurrection. Bon, il ne faut pas que je mette le doigt dans le pot de confiture, bon, il faut que je sois gentil comme ça, bon, peut-être que je ressusciterai. Bon. Non, mais c'est légitime comme interrogation. Enfin, qu'est-ce que je vais faire quand même? Bon, voilà, la suite de mon existence. Bon. Mais on sent bien quand même que le projet de Dieu qui donne la vie à ce qu'il a créé est un petit peu plus vaste que ma petite espérance. En tout cas, je parle pour moi, ça me fait du bien de me le redire. Voilà. Alors, qu'est-ce que la résurrection? En fait, de fait, voilà, on ne sait pas ce que c'est. Moi, je vous invite, et en plus, c'est bien, la période liturgique, voilà, là, on est dans le carême, donc on sera bientôt à la période pascale, on va célébrer la résurrection, à reprendre, à fréquenter les textes, justement, enfin, l'Évangile, l'Acte des Apôtres, qui racontent ce que c'est. On voit bien que c'est compliqué, qu'on ne sait pas bien. En tout cas, Jésus, il a des propriétés particulières, hein, il traverse les murs, il est à différents endroits, il a un aspect différent, bon, voilà. Mais là n'est pas l'essentiel. Le point commun, finalement, de tout ce qui apparaît dans l'Écriture, c'est que la résurrection, c'est d'abord une expérience personnelle de transformation intérieure. C'est ça, la résurrection. C'est une expérience personnelle de transformation intérieure. Et ceux qui sont témoins de la résurrection s'en trouvent profondément transformés. Donc, c'est d'abord une expérience personnelle de transformation intérieure. C'est ce qu'on a dans différents passages de l'Écriture, en particulier, là, les disciples d'Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Notre cœur n'était-il pas... Ben, évidemment, il ne peut que brûler le cœur. Ils étaient en direct avec le ressuscité. Forcément. Donc, c'est quelque chose d'intérieur. Et c'est le témoignage que rendent ceux qui vivent des conversions ou des choses comme ça. C'est, voilà, c'est la transformation intérieure. Et c'est sur la base de cette expérience personnelle que, justement, les premiers disciples parleront de la résurrection, et c'est par cette transmission-là que l'Église existe encore. L'Église, encore une fois, en tant que communauté de croyants. Et donc ça, pour moi, ça amène un point absolument essentiel. Aujourd'hui, puisque ne perdons pas le fil, à quoi sert un chrétien? À servir la vie. À révéler au monde cette dimension corporelle, psychique, mais aussi spirituelle qui ouvre à l'infini qui est en lui, dans l'homme. Et troisième utilité, eh bien voilà, c'est d'annoncer cette résurrection, promesse de vie éternelle pour tous. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, il y a une question à se poser, qui est une question là aussi, qui est, en tout cas, voilà, pour moi, qui n'est pas simple. Est-ce que je suis un chrétien d'avant ou est-ce que je suis un chrétien d'après? Entendu, est-ce que je suis un chrétien d'avant la résurrection de Jésus? Est-ce que je suis un chrétien d'après la résurrection de Jésus? Le chrétien d'avant la résurrection de Jésus, c'est finalement celui qui accompagne Jésus, le bon samaritain, etc. Voilà, mais qui s'arrête là. Sauf que nous, on n'y peut rien, on est né après la résurrection du Christ. Donc on peut pas faire comme si, enfin si, en fait, on peut faire comme s'il n'était pas ressuscité. Mais en fait, on est de cette génération où on sait, où on croit, où on regarde, où on sent, où on cherche, que le Christ est ressuscité. Il se révèle à nous, ainsi de suite. Donc, est-ce que je suis un chrétien d'avant ou est-ce que je suis un chrétien d'après? Est-ce que je me comporte comme si Jésus était mort ou est-ce que je me comporte dans mon attitude, dans ma vie intérieure, comme si, effectivement, il était ressuscité? Voilà. D'où la question pour moi qui est compliquée et je crois qu'il rencontre vraiment aussi la période que traverse l'Église. Voilà, sommes-nous vraiment des chrétiens d'après? Au sens d'après la résurrection du Seigneur. Voilà. En quoi je suis, moi, témoin de cet événement inouï de la résurrection? Alors, il me semble que, pourquoi, puis après je terminerai un dernier point sur aussi bien sûr la résurrection, mais pourquoi ces trois cercles, vous allez me dire? Ben parce que, vous aurez compris évidemment que la résurrection, c'est le moment où éclate de façon en plénitude le don de la vie. Voilà. On ne peut pas faire plus de plénitude la vie qui se donne que quand elle relève un mort, qui en plus descend aux enfers. Enfin, dans la tradition, hein, c'est le samedi matin, de mon point de vue, la liturgie, le samedi saint matin. Hein, point de vue, la liturgie n'insiste pas assez là-dessus. Et du coup, on pense que finalement, la résurrection, c'est un coup de magie, quoi. Pas un coup de magie. Il est vraiment mort, le Seigneur. Et il est tellement mort qu'il descend aux enfers. Moi, j'aime beaucoup cette icône que certains d'entre vous connaissent, où on voit Jésus qui descend aux enfers. Donc, c'est dans la liturgie, c'est entre le vendredi soir et le samedi matin, et tout le samedi, voilà, le Seigneur séjourne dans le séjour des morts, quoi, pour justement nous redonner la vie. Donc, quand je disais tout à l'heure que l'exercice de la charité, en fait, c'est être au service de la vie en communiquant la vie de Dieu. Elle nous vient d'où, cette vie de Dieu? C'est pas une valeur morale, c'est pas simplement on a un devoir fraternel les uns entre les autres. Oui, c'est vrai tout ça, mais ça n'est jamais qu'une déclinaison de cette vie qui nous est donnée encore aujourd'hui et qui a éclaté en plénitude au moment de la résurrection dans la personne du Christ. Et donc c'est pour ça que ce cercle-là, la résurrection du Christ, est au centre. Parce que c'est cette énergie-là de vie donnée en plénitude, avec une telle puissance qu'elle redonne la vie, qui effectivement vient irriguer nos gestes, nos attentions de miséricorde, de charité. Et puis, le deuxième cercle aussi, parce que évidemment la vie qui nous est donnée, elle est faite pour se donner, se déployer dans toutes les dimensions de notre personne. C'est bien pour ça que dans la tradition chrétienne, ce n'est pas simplement la résurrection d'un esprit, c'est la résurrection de tout notre être. C'est ça que dit la tradition chrétienne. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout gober, de tout croire, machin bidule. Ça reste pour moi en tout cas un mystère. Un mystère, ça ne veut pas dire que c'est ésotérique et que je ne comprendrai rien, etc. Un mystère, c'est juste un chemin. C'est ça que ça veut dire la tradition chrétienne. C'est quelque chose qui dépasse mon intelligence, en même temps qui m'appelle à continuer à progresser parce que là, il y a de la vie pour moi. Après, reconnaître que mon intelligence est limitée et qu'elle ne comprend pas le projet de Dieu, moi, très franchement, je ne suis pas toujours très humble, mais enfin là, je n'ai pas de mal à reconnaître qu'a priori, mon intelligence n'est peut-être pas assez calibrée pour rentrer dans l'intelligence de Dieu, dans les vues de Dieu. Donc ça reste un mystère. Et en même temps, voilà, c'est ça qui est un chemin de vie. Donc en fait, ce cercle-là de la résurrection est au centre parce qu'en fait, il irrigue cette anthropologie, c'est-à-dire cet homme dans toutes ses dimensions, et que c'est cette vie-là qu'il s'agit de donner. Alors, autre façon de dire finalement cette affaire, justement, ce lien entre résurrection et les deux autres cercles, c'est qu'on peut dire que finalement, nous sommes finalement des sauveteurs. On est tous appelés à être des sauveteurs. Et quelque part, on l'a tous été dans notre vie, ou on l'est peut-être aujourd'hui. On est des sauveteurs. Les sauveteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre façon de donner la vie, elle est partielle et elle est transitoire. Un médecin, par exemple, il va soigner quelqu'un, ça sera super partiel. Il ne va pas soigner la personne dans la totalité de son intégralité, de toutes ses dimensions. Il va soigner un bout d'intestin, un bout de côlon, il va soigner, j'en sais rien, moi, un rhume, le psy, il va soigner quelque chose, bon, très bien. Mais ça sera partiel, surtout ça sera transitoire. Un transitoire parce que finalement, voilà, on va soigner une maladie, mais enfin dans tous les cas, de toute façon, on va y rester. Hein. Bon, voilà. A priori tout le monde. Voilà. Et pareil pour, voilà, on va aider quelqu'un de la rue, on va l'aider à en sortir, mais de toute façon, au bout du compte. Donc c'est partiel et c'est transitoire. Donc on est là pour faire circuler la vie, pour donner cette vie, mais d'une façon partielle et transitoire. Donc nous sommes des sauveteurs. Versus le sauveur. Le sauveur. Il y a des sauveteurs, nous tous. Il y a le sauveur, le Christ. Et lui, la façon justement qu'il a de donner la vie, c'est d'une façon intégrale et d'une façon définitive. Et c'est ça qui se passe justement dans la résurrection. En fait, nous sommes les acteurs de résurrection, mais de résurrection partielle et temporaire. Mais en fait, il y a le seul sauveur, qui n'est pas un sauveteur, qui lui, pour le coup, nous ressuscitera d'une façon intégrale et d'une façon définitive. Donc il y a des résurrections avec un petit R au pluriel assurées par des petits sauveteurs que nous sommes tous. Petit, ne le prenez pas mal, hein. Je veux dire, je suis encore plus petit que vous. Hein. Et puis il y a la résurrection avec un grand R qui elle est radicale et définitive, qui est assurée par le seul sauveur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est pour replacer les choses, et mettre chacun à sa place, quoi. Mais chacun à sa place, en même temps, notre place, elle est noble. Puisque justement, c'est de communiquer la vie de Dieu pour faire ces petites résurrections partielles, temporaires, qui font juste que ben, la vie, elle a du sens, la vie, elle a du goût, puis que la vie, ben, la vie, c'est la vie, quoi. Voilà. Et que qu'est-ce que c'est bon, quoi. Justement, quand c'est vécu dans le don et dans la charité, quoi. Alors, pour terminer, comme ça, je n'aurai pas trop de retard, la résurrection, c'est bien gentil, mais enfin, en pratique, il se passe quoi? Il me semble que la résurrection, ça amène trois actions. Trois actions. Ce n'est pas qu'une réalité comme ça. Ça amène trois actions. Ça se proclame, ça se célèbre et ça se vit. Ça se proclame, ça se célèbre et ça se vit. Alors, ça se proclame. Pourquoi? Parce que, enfin, vous, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai très rarement entendu parler de résurrection. Moi, quand j'étais gamin, j'allais au catéchisme, tout ça, j'étais chez les scouts, j'allais à l'aumônerie, j'étais responsable d'aumônerie, tout ça, enfin bon. Mais pas mal de trucs dans l'environnement catho quand j'étais gamin. On m'a dopé à la parabole du bon samaritain. Alors là, il faut être gentil, faut, etc. Mais ça m'a, de fait, structuré. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, sans discontinuer, depuis que je suis gamin, ben voilà, j'ai un engagement caritatif. Voilà, donc ça m'a structuré. Voilà. Au moins une leçon que j'aurais retenue. La résurrection, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, soit, j'ai mauvaise mémoire, j'étais le gamin dissipé, pas de souci avec ça. Mais enfin, je pense quand même que si on en avait beaucoup parlé, j'en aurais quand même retenu quelque chose. Jamais parlé. Vous, je ne sais pas, mais je pense quand même que, grosso modo, on est une génération où on parle assez peu de la résurrection. En revanche, parler de la réincarnation, on a une époque où là, par contre, ça se fait sans complexe. On ouvre Philosophie Magazine, Psychologie Magazine, qui sont, je trouve, de très belles revues. Hein, très belles revues. C'est quand même rare de tomber sur un numéro, un exemplaire, enfin un numéro hein, de telle ou telle revue où il n'est pas question de réincarnation. Mais alors, entendre parler de la résurrection, alors, donc en gros, il faut bien voir que c'est une réalité qui n'est plus dite. Qui n'est plus dite. Voilà. C'est là où je dis, je pense qu'il faut la proclamer, la résurrection. Il faut la dire. On ne peut pas mieux faire pour faire disparaître une réalité que de ne pas la nommer. Alors, ok, je suis psychanalyste, c'est un peu facile, tout ça, mais enfin, c'est quand même vrai. C'est-à-dire, si on ne nomme pas des réalités, la réalité disparaît. Donc, il n'y a pas de difficulté à parler de la réincarnation. Je parle dans notre culture globale. Hein, la réincarnation, je vais me réincarner en plante, en truc, en bidule, bon, machin. Alors, la résurrection, rien. Bon, ben, moi, je préfère mal en parler, encore une fois, être pas très clair, pas très à l'aise, parce que je ne sais pas bien les mots, les machins, bidules. Mais je préfère susciter l'incrédulité, mais me dire que j'essaye quand même d'être un témoin juste de ce qui nous donne la vie éternel et pour tous, je préfère susciter l'incrédulité que l'indifférence. Je préfère parler de quelque chose, en l'occurrence la résurrection, en en parlant mal et en parlant donc humblement et en tâtonnant, plutôt que de ne pas en parler et donc au bout du compte de ne jamais annoncer quelque chose de cette réalité-là, qui est une réalité, encore une fois, de la fin des temps, de ma vie éternelle et machin bidule après la mort, tout ça, même si, en fait, j'en sais rien. Est-ce que ça sera au moment de la mort? Est-ce que ça sera la parousie? Est-ce qu'il faudra encore attendre un petit peu? Combien de temps dure le purgatoire? Est-ce qu'il y a des passe-droits? Est-ce que si on connaît du monde? Bon. Moi, tout ça, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui m'appelle à être chrétien, à devenir chrétien, et que donc c'est d'abord le témoignage de cet événement de la résurrection. J'en parle mal, ok, mais j'en parle. Donc, ça se proclame. Et n'ayons pas peur d'être modeste, n'ayons pas peur d'être humble, n'ayons pas peur d'être maladroit, n'ayons pas peur de dire, en fait, je ne sais pas bien. Voilà, mais en fait, en réalité, qui est capable d'expliquer la vie? Personne. Bon, bah alors c'est tout. Voilà. Enfin, je veux dire, la résurrection, c'est le mystère de la vie. Qui est capable de dire, bah, pourquoi je suis là, comment la vie est donnée, machin, bidule. Les chrétiens, on est tous en difficulté pour parler de ces réalités-là. Donc, ça se proclame. Voilà. Ça se parle. Ça se parle. Alors, deuxièmement, ça se célèbre. Et heureusement, pour le coup, qu'il y a les célébrations, donc ça se célèbre, c'est-à-dire liturgie, sacrement. Heureusement qu'il y a les liturgies, parce que pourtant, je ne suis pas un aficionado de la liturgie, pour ne pas dire que je ne connais quand même pas grand-chose, mais il n'y aurait pas la liturgie pour justement nommer la résurrection, je pense que ce terme aurait, mais alors, définitivement disparu. Et ce terme, encore une fois, ce n'est pas un terme parmi d'autres qui parle du sexe des gens. Du sexe des anges. C'est juste l'événement qui s'est produit. La personne de Jésus-Christ qui fonde le sens même de l'existence du christianisme, voilà, et qui est cet éclatement en plénitude de la vie. Donc, on peut fréquenter, si on veut savoir un peu ce que c'est que la résurrection, on en parle, on en discute entre nous. Très bien. Deuxièmement, on peut fréquenter aussi la résurrection par la liturgie. La liturgie, ce sont les textes, texte des Actes des Apôtres, la fin de l'Évangile, etc. Bon, voilà. Mais la liturgie, ce sont aussi les temps liturgiques. La liturgie, moi, je trouve qu'elle est pas mal faite, en fait, parce que il y a des saisons. Voilà, il y a les temps. Là, il y a le temps du carême. Après, il y aura le temps de Pascal. Enfin, pas le temps de Pascal, le temps pascal. Après, il y aura le temps ordinaire. Après, de nouveau, il y aura le temps de l'Avent et puis le temps de Noël. Enfin, ainsi de suite. Pourquoi il y a des saisons? Bah parce qu'en fait, on a besoin un peu de variété, parce qu'en fait, sinon, on s'habitue, puis après, ça ronronne. Et puis, voilà. Bon, c'est pour ça qu'il y a la liturgie, en fait, hein, et puis ça suit les saisons. Donc, il y a des saisons, et donc, ces saisons, la liturgie, nous aident justement à revisiter, à renouveler justement, justement ce mystère, en fait, hein, qui est le mystère de la résurrection. Et puis, il y a les sacrements. Vous voulez fréquenter la résurrection, vous rapprochez de la résurrection, bah, fréquentez les sacrements. Voilà. Donc, en l'occurrence, en particulier, sacrement de l'Eucharistie, sacrement de la réconciliation. Quand je dis ça, je ne dis pas que, justement, c'est des choses qu'il faut faire tout le temps, tous les dimanches, etc. Je pense qu'au contraire, de mon point de vue, d'une réflexion personnelle, je pense qu'il vaut mieux, c'est ce que dit Jésus, hein, ça ne sert à rien de dire, enfin, de faire comme les pharisiens, de dire des prières, de faire des prières, etc., si on n'est pas prêt, si on n'est pas prêt à accueillir, si on n'est pas, etc. Donc, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question juste de se dire que les sacrements existent juste par cette même énergie qu'est l'énergie de la résurrection. En fait, c'est juste ça, en fait, que j'essaye de dire. Que si on dit, ben, moi, je ne sais pas ce que c'est que la résurrection, ce n'est pas une réalité qu'on peut comprendre intellectuellement, c'est une réalité qu'on peut comprendre avec sa vie spirituelle et qu'elle nous est donnée aussi dans les sacrements. Sacrement de l'Eucharistie, sacrement de la réconciliation. Et puis donc, ça se parle, ça se discute, ça se proclame. Ça se célèbre dans la liturgie, dans les sacrements. Voilà. Et puis, surtout, ça se vit. Voilà, ça se vit. Et ça se vit donc, me semble-t-il, dans deux choses. Ça se vit dans, justement, l'exercice de la charité, ce que je disais tout à l'heure, sauveteur, sauveur, et notamment dans l'expérience, justement, de la difficulté. Pour moi, la définition, quand je disais que la résurrection, c'est une expérience de transformation personnelle intérieure, on le vit dans des moments de difficulté, qui sont des moments de renaissance, et puis dans les moments du pardon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fond, c'est quoi l'expérience de résurrection? C'est... Je suis plus du tout le même après qu'avant. Et en même temps, je suis encore plus moi-même. C'est ça le Christ. Il est encore plus lui-même, finalement, parce qu'il entre définitivement, radicalement, justement, dans l'éternité. Hein. C'est la fête de l'ascension. Il est ressuscité, l'ascension, hop, on le voit bien, définitivement. Il est lui-même. Et en même temps, voilà, il n'est pas pareil après qu'avant. On le reconnaît, mais on ne le reconnaît pas. Enfin, c'est ce que rapportent les apôtres. Et finalement, voilà, pour ceux d'entre nous qui ont vécu des épreuves difficiles, prenons par exemple l'épreuve de la maladie. L'épreuve de la maladie, quand on la traverse, ben finalement, on n'est plus pareil après qu'avant. Et en même temps, on est toujours le même. D'accord, on est toujours le même. Et en même temps, en fait, on n'est plus le même. On n'a plus le même rapport voilà, à ses proches. On n'a plus le même rapport à son corps. On priorise peut-être plus les choses de la même façon. On n'est plus le même. Et pourtant, on est toujours le même. Voilà. Pour moi, on vit quelque chose d'exactement du même ordre, de la même nature, dans l'expérience du pardon. Comment ça marche, le pardon? Qui peut le dire? Alors, ok, il y a des tas de psychanalystes qui ont écrit des trucs dessus, bon, tout ça. Moi, j'ai toujours pas compris. Hein. Il y a quelque chose qui nous échappe dans le pardon. Tout comme il y a quelque chose qui nous échappe dans le fait de qu'est-ce qui se passe intérieurement à travers l'épreuve, au moment de l'épreuve de la maladie. Dans le fond, on ne sait pas bien. Quand on fait un deuil, c'est pareil. À un moment donné, on sent qu'il y a... Qui peut le dire? Et dans le pardon, c'est encore plus vrai, me semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on a pardonné, ou on a accepté d'être pardonné, ou on a fait un geste de... Ça reste quand même sacrément mystérieux, tout ça. N'empêche que dans l'expérience du pardon, on est vraiment dans le « je suis plus pareil avec cette personne qu'avant, et en même temps, je suis toujours le même ». Il y a quelque chose qui a été renouvelé, il y a quelque chose qui a été changé. Et là aussi, je n'ai pas les mots. Alors, soyons pas complexés de ne pas avoir les mots pour parler de la résurrection en tant que telle, puisqu'on n'est même pas capable de trouver les mots pour parler du mystère de la vie, pour parler de ce qui se passe dans le processus du pardon, pour parler de ce qui se passe dans le processus de guérison intérieure, en fait, qui accompagne voilà, les renaissances et les renouvellements dans nos vies. Donc, c'est pour ça que je dis que la résurrection, ce n'est pas simplement un truc théologico, athélo, voilà, machin. C'est des réalités dont on a tout à gagner à en parler, voilà, pour pouvoir aussi voilà, à fréquenter par la liturgie, par les sacrements, et puis à vivre en revisitant, en accompagnant ces expériences de guérison intérieure et de pardon. Et je terminerai juste en disant qu'il y a un lieu particulier justement, où on peut fréquenter, parce que c'est ça le sujet, c'est comment je fréquente ce lieu de la résurrection. Enfin, c'est ça le sujet de ce troisième cercle. C'est comment je fréquente ce lieu de la résurrection, sinon je ne peux pas l'annoncer en fait. Hein. Donc s'il s'agit de l'annoncer, parce que c'est effectivement le seul sens que j'ai à être chrétien, comment je fréquente? Donc voilà, on l'a dit, on en parle, on célèbre, tout ça, machin, bon, ok. C'est dans la vie intérieure. C'est dans la vie intérieure. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, si le Christ n'est pas ressuscité, je ne peux pas le prier. C'est du pipeau tout ça. Je peux en faire mémoire, mais je ne peux pas le prier. En revanche, s'il est bien ressuscité, il est vivant, et alors c'est lui qui me donne la vie. Et qu'a-t-il dit, qu'a-t-il promis? L'Esprit Saint, en effet, et il a promis aussi de venir faire sa demeure en nous. Le Dieu des chrétiens, c'est quand même un Dieu qui est quand même pas banal. C'est un Dieu qui vient faire sa demeure dans le cœur de l'homme. Et donc, s'il est ressuscité, à cette condition-là, encore une fois, s'il est mort, on arrête tout. Hein. On plie les gaules et on rentre chez nous. Mais si je sens qu'intérieurement, il y a quelque chose pour moi, là, dans cette affirmation de l'Église, que le Christ est ressuscité. Voilà, si je sens qu'il y a quelque chose pour moi dans cette affaire. Je suis cette promesse, il est vivant. Et alors, il viendra faire sa demeure en moi. Il vient faire sa demeure en vous, en chacun de vous. Il fait sa demeure. Il a déjà fait sa demeure. Évidemment, vous ne seriez pas là sinon. Probablement, vous lui avez déjà fait hospitalité, en fait. Probablement. Je ne suis pas dans le secret de vos cœurs, mais si vous êtes là, que vous méditez, que vous sentez, il y a quelque chose en vous qui sent ça. Et donc, en fait, si le vrai sujet pour annoncer cette résurrection qui est une promesse de vie éternelle pour tous, pour ça, il faut fréquenter le Christ ressuscité, pas besoin d'aller très très loin. Allez simplement dans le secret de votre cœur. Et alors, vous fréquenterez, vous rencontrerez le Christ ressuscité. Au-delà des mots, au-delà de la compréhension, au-delà de « qu'est-ce que c'est compliqué ce truc parce qu'on ne sait pas comment ça se passe ?» Vous allez juste le rencontrer dans l'expérience que vous faites de votre vie intérieure. Vous rencontrerez silencieusement, mystérieusement, mais avec une fécondité incroyable, le Christ ressuscité. Donc en réalité, il ne peut pas y avoir effectivement, de mon point de vue, de vie chrétienne sans relation au Christ, non pas faisant mémoire d'un type qui a révolutionné l'histoire de l'humanité il y a 2000 ans, mais effectivement d'un homme qui a été ressuscité par son Père, qui est vivant dans le cœur de chacun de nous pour donner la vie, et qu'effectivement la pratique de la méditation, la vie intérieure, plus largement, la vie intérieure, est la voie royale. La voie royale. On dit les rêves sont la voie royale pour les psychanalystes. Moi, je dis, d'accord. Mais je dis aussi, la vie intérieure, la méditation est la voie royale pour fréquenter le Christ ressuscité qui est vivant dans votre cœur. Donc, merci de l'accueillir. Merci de lui faire l'hospitalité que vous lui faites. Il ne désire que ça pour vous donner la vie, pour que vous la donniez à votre tour. Merci.